السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
حضرت قیس بن میسن انصاری صحابی تھے.
قیس بن محسن était un compagnon انصاری.
ان کا نام قیس بن حسن بھی بیان ہوا ہے.
ان کا تعلق selon certains récits il se nommerait قیس بن حسن. Il appartenait à la tribu Banu Zuraik des Ansar. Sa mère se nommait Anissa bint Qais. Et son père se nommait Mihsan bin Khalid. Qais avait participé aux batailles de Badr et de Uhud. Sa fille se nommait Umm Sa'd bint Qais. Les enfants de Qais bin Mihsan résidaient à Médine quand il est décédé. Le deuxième compagnon se nomme Jubair bin Iyas. Son père se nomme Iyas bin Khalid. Il avait participé à la bataille de Badr et il appartenait à la branche Banu Zurayk de la tribu Khazraj. Selon Abdullah bin Muhammad, il se nommait Jubair bin Iyas. Selon un autre récit, il se nommerait Jubair bin Iyas. Selon les hadiths, un juif aurait jeté un sortilège sur le saint prophète Mohammed et qu'il en a été affecté, qu'Allah nous en préserve. Le malfaiteur aurait jeté ce sort sur un peigne et des cheveux pour les jeter dans un puits nommé Dhu Arwan. Le saint prophète Mohammed les en a fait sortir par la suite. Selon Fathul Bari, l'exégèse d'Al-Bukhari, Jubair bin Iyas aurait extirpé ce peigne et ses cheveux du puits d'Arwan. Selon un autre récit, ce fut Qais bin Mihsan qui les avait enlevés. C'est la raison pour laquelle j'ai réuni les récits de ces deux compagnons. L'identité de celui qui avait fait sortir ces objets n'est pas importante. La question est de savoir si le saint prophète Mohammed a été affecté par un sortilège quelconque. Quelle est la réalité derrière ce récit et quelle est notre opinion à ce sujet? Voilà les questions auxquelles nous devons répondre. Nous devons répondre à tout propos pouvant ternir l'honneur du saint prophète Mohammed lui, ou nous devons répondre à toute objection soulevée contre sa personne. C'est la raison pour laquelle j'expliquerai ces faits en détail, comme mentionné dans la littérature de notre Jamaat, en référence à ses deux compagnons. Hazrat Musleh Maud a mentionné cet incident dans son introduction de l'exégèse de la sourate Al-Falaq. Il déclare que selon certains, la sourate Al-Falaq et la sourate An-Nas, ces deux dernières sourates du Saint-Coran auraient été révélées à la Mecque, ou selon certains, ces sourates auraient été révélées à Médine. Ceux qui affirment qu'elles sont d'origine médinoise présentent comme preuve que ces deux sourates sont liées à la maladie du Saint-Prophète Mohammed B.S.A.L.U.I. Une maladie qui aurait eu pour cause le sortilège jeté par un juif. Ces deux sourates auraient été révélées après cet incident et le Saint-Prophète Mohammed B.S.A.L.U.I. les aurait récitées pour ensuite souffler sur tout le corps. Voilà ce qui est raconté à ce sujet. Les exégètes affirment que les sourates Al-Falaq et An-Nas auraient été révélées à Médine, étant donné que l'ensorcellement y aurait eu lieu. L'opinion est plus forte qu'elles sont d'origine médinoise, ces deux sourates. Mais Hadrat Musleh Maud déclare que ceci n'est qu'une déduction des exégètes. Il ne s'agit pas d'un fait historique avéré, quoique nous ne disposons pas non plus de témoignages prouvant que ces sourates ont été révélées à la Mecque. Mais la première hypothèse est absurde. Car que ces sourates soient révélées à la Mecque, le Saint-Prophète Mohammed B.S.A.L.U.I. les aurait quand même récitées pour souffler sur ses mains lors de sa maladie. La conclusion que ces sourates sont d'origine médinoise parce que le Saint-Prophète Mohammed B.S.A.L.U.I. aurait soufflé dans ses mains à Médine est inadmissible. Dans son introduction de la sourate, Hazrat Musleh Maud radhiyallahu anhu a cité le récit de la maladie du Saint-Prophète Mohammed B.S.A.L.U.I. et de l'idée répandue qu'il s'agissait d'un sortilège jeté par un juif. Hazrat Musleh Maud nous présente donc ces faits dans son introduction de ces sourates. Il déclare que, étant donné que les exégètes ont accordé préférence au récit d'Aïcha radhiyallahu anha, eh bien, je me contente ici de traduire son récit. Aïcha radhiyallahu anha relate que des Juifs avaient jeté un sort sur le saint prophète Mohammed Mustafa, sallallahu alayhi wa sallam. Il en fut si affecté qu'il croyait avoir accompli une action qu'il n'aurait pas accomplie en réalité. Durant un jour ou une nuit, le saint prophète Mohammed B.S.A.L.U.I. avait imploré Dieu ardemment. Il a imploré Dieu ardemment et il a dit à Aïcha, « Ô Aïcha, Allah m'a accordé tout ce dont je lui ai demandé. » Aïcha radhiyallahu anha relate qu'elle a demandé au saint prophète Mohammed B.S.A.L.U.I. quel était l'objet de ses suppliques. Le saint prophète Mohammed B.S.A.L.U.I. a répondu. Deux individus étaient en ma présence. L'un se trouvait à mon chevet et l'autre à mes pieds. Celui qui se trouvait à ma tête a dit à celui qui se trouvait à mes pieds, où Aïcha ajoute, peut-être que c'était le contraire, peut-être que celui qui était au pied du saint prophète, B.S.A.L.U.I., s'est adressé à celui qui était au chevet du saint prophète, B.S.A.L.U.I., et il lui a demandé, de quoi souffre cet homme, c'est-à-dire de quoi souffre le saint prophète Mohammed, B.S.A.L.U.I. L'autre a répondu, il a été ensorcelé. Le premier a demandé qui l'a envoûté. Le deuxième a répondu, Labid bin Asim, le juif. Le premier a demandé « Sur quoi a-t-il jeté le sort ?» Le deuxième a répondu « Dans un pain et les cheveux couverts de la batterie d'un dattier mâle. » Le premier a demandé « Où se trouvent ces objets ?» Le deuxième a répondu « Au fond du puits de Arwan. » Aïcha rapporte que le saint prophète Mohammed est parti avec ses compagnons vers ce puits et il en est retourné. À son retour, il a dit « Ô Aïcha, par Allah, l'eau du puits était rouge comme celle du henné. » Hazrat Muslim Maud explique que lorsque les Juifs jetaient un sort sur quelqu'un, eh bien, ils plaçaient du henné ou tout autre produit de ce genre dans de l'eau pour faire croire que cette eau est devenue rougeâtre par la force de leur magie. C'était là une manière de tromper les simples d'esprit. Le saint prophète Mohammed a déclaré « Les palmiers dattiers de là-bas ressemblaient à des têtes de serpents. Les palmes émergentes de ces dattiers ressemblaient à des serpents. » Aïcha a demandé au prophète d'Allah « Pourquoi n'avez-vous pas brûlé les objets sur lesquels le sort a été jeté ?» Le saint prophète, paix soit sur lui, a répondu « Étant donné qu'Allah m'avait guéri, je craignais de répandre le mal dans la population en les montrant. J'ai donc ordonné qu'on les enterre et il en fut ainsi. » Hadrat Muslim Maud Aradotananho explique que les deux hommes mentionnés dans le récit d'Aïcha étaient des anges qui sont apparus au Saint-Prophète Mohammed lui. S'ils étaient des êtres humains, Aïcha Radotalanha les aurait vus elle aussi. L'on déduit de son récit qu'Allah souhaitait informer le Saint-Prophète Mohammed lui à travers ses anges. Il voulait l'informer que les Juifs avaient jeté un sort sur lui. Cela ne signifie pas que le saint prophète Mohammed était tombé sous le coup du sort, tout comme certains le pensaient. Quand le saint prophète Mohammed a fait sortir ses objets envoûtés pour les enterrer, les Juifs ont déduit que leur sortilège a été brisé. Et d'ailleurs, Allah a rétabli la santé du saint prophète Mohammed lui. En bref, les Juifs croyaient avoir jeté un sort sur le saint prophète Mohammed lui, et ils croyaient que leur sort a eu de l'effet et qu'il est tombé malade en conséquence. Hazrat Muslim Maud Radotalanhu explique que le récit met en exergue l'hostilité que les Juifs ressentaient à l'encontre du saint prophète Mohammed lui. Et l'on comprend d'ailleurs que le saint prophète était un vrai prophète de Dieu, car Dieu avait informé le saint prophète à propos des actions des Juifs à son encontre. Sa connaissance des choses de l'invisible et l'échec des Juifs dans leurs tentatives sont autant de preuves qu'il est un vrai prophète. En tout cas, la conclusion tirée par Hazrat Muslim Maud est la réalité, notamment que les Juifs croyaient avoir jeté un sort sur le saint prophète Mohammed lui, mais leur sort n'a pas eu d'effet sur sa personne. Sa maladie ou son amnésie avait d'autres raisons. Or, Allah l'exalté avait informé le saint prophète Mohammed lui à propos du complot des Juifs. Allah a réduit ouvertement à néant le sort qu'il croyait avoir jeté. Les Juifs étaient ravis de constater sa maladie et ils ont répandu la rumeur que leur sortilège en était la cause. Cependant, Dieu a dévoilé la vérité. Hazrat Mirza Bashir Saheb a écrit un article expliquant davantage ce sujet en citant l'histoire et en étayant ses arguments. Il explique davantage donc ce récit. Il déclare, selon les annales de l'histoire, voire selon les hadiths, on rapporte, qu'Allah nous en préserve, qu'après le traité de Hudaybiya, un juif du nom de Labid bin Asim aurait jeté un sort sur le saint prophète Mohammed b.s.a. lui. Il aurait jeté ce sort en enroulant des cheveux dans un peigne pour réciter dessus des incantations et en jetant ce peigne dans le puits. On rapporte, dit-on, que le saint prophète Mohammed b.s.a. lui aurait été sous l'emprise de ce sortilège pour un bon bout de temps. C'est-à-dire que les auteurs du sort avaient répandu cette rumeur. Durant cette période, souvent le saint prophète b.s.a. lui était triste et mélancolique. Tout anxieux, il priait souvent. Un signe évident était que le saint prophète b.s.a. lui était très oublieux durant ses jours. Il croyait avoir accompli telle ou telle action quand il ne l'avait pas fait en réalité. Parfois, il croyait à tort avoir visité telle ou telle épouse. En accord aux préceptes islamiques, le saint prophète Mohammed b.s. lui avait fixé un tour pour chacune de ses épouses. Tous les soirs, il visitait la maison de chacune d'entre elles pour prendre leurs nouvelles et il s'arrêtait au final chez celle désignée pour ce jour. C'est ce qu'on déduit du récit cité plus haut. En fin de compte, Dieu a dévoilé au saint prophète Mohammed b.s.a. lui tout le complot dans un rêve. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Saheb cite ici le résumé du hadith de Bukhari. Ce hadith cité dans le commentaire de Hadrat Muslim Maud. Il ajoute ceci et le résumé des récits consignés dans les annales de l'histoire et dans les hadiths. Tant de légendes ont été tissées autour de ce récit qu'il est impossible de démêler le vrai du faux. Si l'on accepte tel quel tous ces récits, l'on présentera l'on va présenter la personne bénie du saint prophète Mohammed b.s.a. lui comme un individu très faible, un individu si faible que ses ennemis pouvaient l'influencer négativement, tout au moins concernant les affaires de ce monde. Qu'Allah nous en préserve. Par son influence maléfique, l'ennemi aurait pu cibler le saint prophète Mohammed b.s.a. lui, maîtrisant ainsi ses pensées et ses sentiments tant et si bien qu'il était entièrement sous l'emprise de ce sortilège. Qu'Allah nous en préserve. En acceptant tel quel ces récits tirés des recueils de hadiths et d'histoire, cette conclusion qui sera tirée sera tout à fait erronée. Cependant, une lecture rationnelle et synoptique de ces récits, ainsi qu'un examen minutieux de ces récits, prouve que le saint prophète Mohammed b.s.a. lui souffrait tout simplement d'une amnésie passagère. Il souffrait de cette amnésie tout simplement en raison de certains soucis temporaires ou en raison d'une faiblesse physique. Certains infâmes ennemis ont profité de cette situation pour répandre la rumeur qu'ils avaient pu jeter un sort sur le prophète des musulmans. Qu'Allah nous en préserve. Or, Allah a rétabli rapidement la santé du saint prophète Mohammed b.s.a. lui pour humilier l'ennemi et pour réduire à néant la propagande mensongère des hypocrites. En ce monde, le saint prophète Mohammed, peace soit sur lui, était le meilleur des prophètes, le conquérant des forces sataniques. Personne, ni dans le passé, ni à l'avenir, n'a accompli pareil prodige. Croire qu'il avait subi le sortilège d'un juif est le comble de la stupidité. Ceci est inimaginable. Ceci n'est point ma conclusion. Le saint prophète Mohammed, paix sur lui, a nié ces faits, comme expliqué dans un hadith. Aïcha radhiyallahu anha a demandé au prophète d'Allah, Satan se trouve-t-il en moi? Le saint prophète Mohammed, paix sur lui, a répondu oui. Aïcha a demandé de nouveau, Satan se trouve-t-il en chaque être humain? Le saint prophète, paix soit sur lui, a répondu « Certainement ». Tout étonné, Aïcha a demandé « Ô envoyé d'Allah, Satan se trouve-t-il aussi en vous ?» Le saint prophète a répondu « Oui, mais Allah m'a accordé le dessus sur mon Satan, tant et si bien qu'il est devenu musulman. » Après cet énoncé clair, peut-on croire qu'un juif avec l'aide de son Satan puisse envoûter un prophète d'un si grand statut, tant et si bien que le saint prophète, paix soit sur lui, a été sous l'emprise de son sort maléfique pour un certain temps, et qu'il est sombré dans l'inquiétude, dans la dépression et dans la maladie? Les menteurs ont toujours eu recours à ces basses intrigues, des basses intrigues que Dieu le Tout-Puissant et Honorable a dévoilées au grand jour, tout comme il l'affirme dans le verset suivant, « Kataballahu l'arlibanna ana wa rusuli » Allah a décrété, « Je prévaudrai très certainement moi et mes messagers, et aucun complot satanique n'aura le dessus sur nous. » Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib ajoute, reste à connaître la réalité derrière ce récit rapporté par Aïcha dans le recueil d'Al-Bukhari. Il n'est pas difficile de le comprendre dans le contexte de cet incident et en accord au comportement des juifs et des hypocrites. De prime abord, le prétendu ensorcellement a eu lieu après le traité de Hudaybiyah. Selon Tabaqat ibn Sa'd, il est dit que cela a eu lieu après le traité de Hudaybiyah. Le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, avait décidé d'accomplir l'Umrah à la Mecque suite à un rêve. Mais les Qurayshites l'ont empêché d'accomplir l'Umrah. Et le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, est retourné après ce semblant de défaite. Ceci a engendré une grande tristesse, attirant ainsi les sarcasmes et les moqueries des mécréants et des hypocrites. Selon un hadith, certains musulmans, voire un compagnon aussi éminent qu'Omar, radhiyallahu anhu, eh bien, ses compagnons ont été ébranlés par cet échec temporaire. Dans un récit de Bukhari relaté par Omar, il est dit que le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, était très anxieux pendant quelque temps, craignant que cet événement ne soit une épreuve pour les faibles, pour ceux qui étaient faibles dans leur foi. Cette inquiétude a certainement affecté la santé du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. Tout anxieux, il implorait Dieu abondamment, comme l'affirment les hadiths. Il est dit qu'il ne cessait de prier, d'implorer Dieu. Il priait ardemment afin que le traité de Hudaybiyah ne soit pas une entrave dans le progrès de l'islam. Ses prières ressemblaient à celles qu'il avait faites à Badr en voyant la force ennemie. En dépit de la promesse de la victoire faite par Allah, eh bien, le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, n'a cessé d'implorer Dieu ardemment. Il avait prié, « Ô mon Seigneur, si ces musulmans meurent aujourd'hui, personne sur terre ne te rendra culte. » Ces événements eurent un profond effet sur sa force physique et sur sa mémoire. Il fut frappé d'amnésie pendant quelque temps, entre 2 ou 4 jours, selon certains récits, où cela a duré un jour ou une nuit. Hazrat Mirza Bashir Sahib déclare que c'était là la conséquence de ses inquiétudes. Le saint prophète Mohammed lui était aussi inquiet quant à l'ampleur de la foi des musulmans. Attention qu'ils ne faiblissent dans leur foi. C'était une condition tout à fait humaine. Allah n'a pas fait d'exception pour les prophètes à cet égard. Quand les juifs et les hypocrites ont constaté que le saint prophète Mohammed lui était malade et qu'il était oublieux en raison de sa fatigue physique et mentale, comme à l'accoutumée, ils ont tenté de fomenter la discorde en répandant la rumeur qu'ils avaient jeté un sortilège sur le saint prophète Mohammed lui. Qu'Allah nous en préserve. Cette amnésie et cette maladie seraient le résultat de ce sortilège, disaient-ils. Selon leur ancienne pratique, comme signe de ce sort, ils ont enroulé des nœuds de cheveux dans un peigne pour l'enfouir dans un puits. Lorsque le saint prophète Mohammed a eu connaissance de ce prétendu sort, afin d'arrêter cette intrigue, comme l'a rapporté Aïcha, le saint prophète a imploré Dieu avec beaucoup d'ardeur durant un jour et une nuit. Et il a demandé à Dieu de lui dévoiler l'auteur de ce sortilège. Il a demandé à Dieu de dévoiler aussi la méthode utilisée par l'auteur de ce sortilège afin qu'il puisse y mettre fin. Allah a écouté les suppliques du saint prophète Mohammed et lui a dévoilé la vérité par l'entremise d'un rêve. Le Saint-Coran émet le principe suivant à cet égard. « Wala yuflihu sahiru haythu ata » C'est-à-dire, un magicien d'où il vient ne peut réussir face à un prophète. Ensuite, il y a cette directive très claire du Saint-Coran. « Yaqulu zalimuna in tattabi'una illa rajulun mashura » يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا Les injustes disent que vous ne suivez qu'un homme ensorcelé. Voilà ce que disaient les mécréants. En étudiant la structure de ce hadith de Bukhari, son style et l'usage de la langue arabe, l'on conclut qu'il s'agit là du style dit « Hikaya anil Ray », c'est-à-dire des discours rapportés. Ce style est qu'apparemment le locuteur parle de sa personne, mais il rapporte en fait les propos d'autrui. Vu sous cet angle, la traduction de ce hadith est comme suit. Aïcha radiallahu anha rapporte qu'une fois, le saint prophète Mohammed a été ensorcelé. C'est-à-dire que les ennemis avaient répandu la rumeur qu'il était sous l'influence d'un sort. Ceci est la traduction de ce hadith et pas des paroles d'Aïcha. L'ennemi avait répandu cette rumeur durant ses jours et le saint prophète Mohammed croyait à tort durant ses jours qu'il avait accompli telle ou telle action. Selon un récit, le saint prophète croyait avoir visité telle ou telle épouse alors qu'il ne l'avait pas fait. Durant ces jours, rapporte Aïcha radiallahu anha, durant ces jours, le saint prophète paix soit sur lui me rendit visite. Il répétait tout anxieux des prières. Par la suite, il m'informa. Ô Aïcha, sais-tu qu'Allah m'a informé ce à propos de quoi je l'avais imploré? J'ai demandé au envoyé d'Allah de quoi s'agit-il. Il m'expliqua. Dans un rêve ou dans une vision, j'ai vu deux personnes. L'une était assise à mon chevet et l'autre à mes pieds. L'une a demandé à l'autre, « Qu'est-il arrivé avec cet homme ?» Nizam Bashir Ahmad Saab commente que le style de la conversation démontre qu'il s'agit là du discours d'autrui. Ensuite, il a réitéré la même conversation, notamment à propos de la maladie et du sort jeté par un juif ainsi que l'effet de ce sortilège. Aïcha Radiatananha relate qu'après ce rêve ou après cette vision, le saint prophète Mohammed Pessoa-Salui s'est rendu auprès de ce puits avec ses compagnons et l'a examiné. Des dattiers poussaient autour de ce puits obscur. Le saint prophète Mohammed Pessoa-Salui est retourné chez Aïcha et il a dit: j'ai vu ce puits, son eau était rouge comme du henné. Comme mentionné auparavant, les Juifs, afin de tromper les gens, coloraient l'eau de ces puits. Et ces dattiers étaient affreux comme les cactus. Aïcha a demandé: pourquoi n'avez-vous pas fait sortir le pain pour le jeter? Ou pourquoi ne l'avoir pas brûlé, selon certains récits? Le saint prophète, paix soit sur lui, a répondu: Dieu m'a protégé et m'a accordé la guérison. Si j'avais sorti cet objet, la population aurait colporté des histoires sur cette action infamante. Les faibles d'esprit auraient été affectés par ces pratiques occultes. C'est pour cette raison que ce puits a été scellé. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Saab explique que le style Hikaya Anil Ghaib, c'est-à-dire parler du point de vue d'autrui, ou rapporter la conversation d'autrui, eh bien, ce style était très présent chez les Arabes. Ce style est aussi utilisé dans le Saint-Coran. Ainsi, en s'adressant aux damnés de l'enfer, Dieu déclare dans le Saint-Coran: « Dhuk, innaka antal azizul karim » « Goûte aux damnés de l'enfer, tu es le respectable, l'honorable ». Ici, cela ne signifie pas qu'Allah considère respectable et vertueux les habitants de l'enfer. Qu'Allah nous en préserve. Selon le style Hikaya Ain al-Ray, ce verset signifie: ô toi qui étais respectable et honorable à tes yeux et aux yeux des autres, après avoir commis tes infamies, tu t'es considéré respectable et honorable. Goûte à présent au châtiment de l'enfer. Ces deux individus, ces deux anges du rêve du saint prophète Mohammed Peace be upon him, ont adopté le même style. Dire que cet homme a été ensorcelé signifie que les gens disent qu'il a été ensorcelé. Cela ne signifie pas qu'il a été ensorcelé en réalité. L'objectif de Dieu à travers ce rêve était de dévoiler au prophète l'objet que les infâmes avaient caché dans le puits et grâce auquel ils trompaient les gens qui étaient de leur acabit, c'est-à-dire qui trompaient les autres hypocrites. Par ce faire, Dieu voulait réduire à néant leur prétendu sortilège. Il en fut ainsi, et ces objets ensorcelés ont été réduits en poussière. Ainsi, en conséquence, le saint prophète Mohammed Pessoa-Salui n'était plus inquiet. Il était plus inquiet que cet acte malveillant causera l'égarement des simples d'esprit. Et la promesse divine que le magicien d'où il vient ne peut réussir face au prophète de Dieu, eh bien, cette promesse divine s'est accomplie dans toute sa splendeur. Le hadith cité plus haut confirme ceci, notamment qu'après le traité de Hudaybiyah, tout naturellement, le saint prophète Mohammed était très inquiet à propos de l'égarement de certains musulmans. Il était si inquiet qu'il était oublieux concernant l'effet de son foyer au quotidien. Deuxièmement, constatant l'état du saint prophète Mohammed, les juifs et les hypocrites, comme à l'accoutumée, en ont profité pour ternir l'image de l'islam et l'image de son saint fondateur. Et ils ont colporté secrètement la rumeur qu'ils avaient ensorcelé le prophète des musulmans. Cette rumeur ressemblait à celle colportée après la bataille contre les Banu Mustalik à propos d'Aïcha. Aïcha qui était restée en arrière. On avait colporté cette rumeur afin de ternir son nom. C'était là un vil complot pour rendre amère la vie du saint prophète Mohammed bissos lui. Troisièmement, afin de tromper les simples d'esprit, ces infâmes ont commis ce prétendu sortilège par l'entremise d'un juif nommé Labid bin Asim, en enroulant des nœuds de cheveux dans un peigne qu'ils ont enfoui dans un puits. Et ils ont commencé à répandre des rumeurs secrètes, suscitant davantage l'inquiétude du saint prophète Mohammed bissos lui. Quatrièmement, le saint prophète Mohammed bissos lui a imploré Dieu afin qu'il réduise à néant ce complot et afin qu'il lui dévoile la vérité, afin de protéger les simples d'esprit de l'égarement. Cette prière aussi a été exaucée. Cinquièmement, Allah a exaucé la prière du saint prophète Mohammed bissos lui en dévoilant le complot de Labid bin Asim. Sur ce, accompagné de quelques témoins, le saint prophète Mohammed bissos lui s'est rendu auprès du puits et a réduit à néant le peigne, voire il a fait boucher le puits afin d'annuler l'effet en enlevant la cause. En fin de compte, demeure la question suivante. Pourquoi un prophète aussi éminent que le saint prophète Mohammed bissos lui, le meilleur des messagers, le seul des prophètes, pourquoi a-t-il été frappé d'amnésie? Une amnésie qui aurait pu affecter ses obligations en tant qu'envoyé divin. Sachez que tout prophète possède deux aspects. D'une part, un prophète est un prophète et un messager de Dieu, et il est le récipiendaire de la parole divine, et il est l'enseignant de ses disciples en matière de religion, et il leur sert d'exemple. Deuxièmement, le prophète est aussi un être humain parmi tant d'autres. Il est sujet à toutes les conditions humaines et il est sujet aux mêmes vulnérabilités naturelles que les autres. À cet égard, s'adressant au saint prophète Mohammed bissos lui, Allah déclare dans le Saint Coran « Qul inama ana basharum mithlukum yuha ilayya » C'est-à-dire au prophète, informe ces gens, je suis qu'un homme comme vous. Et je suis sujet à toutes les lois qui affectent les autres. Je suis certainement un prophète d'Allah, et afin de guider sa création, je suis récipiendaire de sa révélation. Ceci est une traduction explicative. Ce beau verset décrit brillamment les deux aspects de la vie des prophètes. Il est différencié d'une part des autres êtres humains, mais ne les enlève pas, d'autre part, du rang de ces derniers. Menteur est celui qui croit que les prophètes ne sont pas sujets aux conditions humaines et que les prophètes sont au-dessus des vulnérabilités naturelles guettant l'homme. Les prophètes tombent malades à l'instar des hommes ordinaires et ils sont frappés de paludisme, de la fièvre ou de la typhoïde. D'ailleurs, commente Moussa Bachir Saheb, les symptômes mentionnés dans les hadiths et les annales de l'histoire démontrent que le saint prophète, que ce soit lui, était décédé de la fièvre typhoïde, la tuberculose, la fièvre rectique, l'asthme, le rhume, le toux, la goutte, la migraine, le rhumatisme, l'hypersensibilité, l'anxiété, l'angoisse, la fatigue mentale, l'amnésie, les blessures suite aux accidents et au combat peuvent affecter tous les prophètes. Hormis si Allah a fait exception pour un prophète, promettant de le protéger d'une maladie particulière. Quelqu'un peut demander comment le saint prophète bissos lui a-t-il pu être victime d'amnésie après la promesse suivante faite dans le Saint-Coran à son sujet, promesse qui dit Sanukrioka fala tensa, c'est-à-dire nous t'enseignerons et tu n'oublieras pas. Comment se fait-il qu'après cette promesse, le saint prophète a été victime d'amnésie? Sachez que cette promesse s'applique uniquement à la révélation du Saint-Coran et pas aux situations générales. Cette révélation dit au prophète, tu n'oublieras pas la révélation que nous t'enverrons pour la direction de l'Oumma et nous la protégerons jusqu'au jour dernier. Cette promesse ne s'applique pas aux affaires de ce monde, au quotidien ou à certaines pratiques culturelles. Selon les hadiths, étant être humain, le saint prophète Mohammed Pessah sur lui était parfois oublieux. Il était même oublié concernant le nombre de rakat qu'il avait accompli lors de la salat. Et il s'en rappelait suite au rappel des fidèles. Ces hadiths se trouvent dans les recueils de Bukhari et de Muslim. Il était oublié dans d'autres occasions. Selon les hadiths, le saint prophète Mohammed Pessah sur lui-même a déclaré à son sujet que « Je suis un homme comme vous, j'oublie tout comme vous oubliez. Et si j'ai oublié quelque chose, eh bien, faites-moi un rappel à ce sujet. » Ainsi donc, le saint prophète Mohammed Pessah sur lui était oublié de temps à autre. De même, après le traité de Hudaybiyah, il a été frappé d'une amnésie temporaire. Les ulémas du passé ont présenté la même explication à propos de ces récits sur le sortilège. À titre d'exemple, Allama Maradhari relate qu'il existe d'innombrables preuves évidentes de la véracité du saint prophète Mohammed Pessah sur lui. Ces miracles témoignent de sa véridicité. Il peut être affecté par des conditions qui ne concernent pas sa mission, comme le fait de tomber malade. Il est tombé malade comme les autres, et cette amnésie était donc une maladie comme une autre. Allama Ibn al-Kathar relate que l'amnésie dont souffrait le saint prophète Mohammed Pessah sur lui était une maladie parmi tant d'autres. Ceci est évident des dernières paroles du hadith, dans lequel il affirme qu'Allah lui avait donné la guérison. En bref, après le traité de Hudaybiyah, le saint prophète Mohammed Pessah sur lui était affecté par une condition que ses ennemis ont qualifiée d'envoûtement. Ceci n'était guère le résultat d'un sortilège, mais d'oubli en raison de la situation. Certains fauteurs de troubles ont profité de cette amnésie pour mener une propagande contre la personne pure du saint prophète Mohammed Pessah sur lui. Le Saint-Coran rejette catégoriquement le fait qu'un prophète puisse être victime d'envoûtement. D'ailleurs, l'intelligence humaine rejette ce fait. Les paroles des hadiths rejettent cette interprétation qu'on tente d'y attribuer. D'ailleurs, l'éminent statut du saint prophète Mohammed Pessah sur lui réduit à néant toute cette histoire d'envoûtement. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib ajoute « Il est opportun de présenter ici un point évoqué par le deuxième calife, qu'Allah soit son soutien. » Il rapporte ceci à l'époque où le deuxième calife était encore vivant. Le deuxième calife a mentionné dans la Sirah al-Mahdi, le volume 1, page 75, qu'un hindou antipathique du Gujarat visita un jour Kadian. Il était un très grand expert en hypnotisme et il se présenta dans la réunion du Messie premier al-Islam. Et tout silencieusement, il commença à concentrer sa pensée sur le Messie premier al-Islam afin que celui-ci accomplisse des actions inappropriées, afin qu'il puisse le ridiculiser devant tout le monde. Mais lorsque le Messie premier al-Islam s'est concentré sur sa personne, l'hindou prit la fuite en hurlant. On lui demanda ce qu'il en était et il expliqua. Quand j'ai concentré ma pensée sur Mirza Saheb, j'ai vu devant moi un lion terrifiant, prêt à me bondir dessus. Tout apeuré, j'ai pris la fuite. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Saheb commente. Le Messie premier d'Islam était le serviteur du saint prophète Mohammed Pessah sur lui. Étant donné qu'il avait atteint le stade où Dieu l'a protégé de l'influence de l'hypnotisme, comment peut-on croire que son maître, le saint prophète Mohammed Pessah sur lui, ait pu être la cible de l'hypnotisme d'un juif, qu'Allah nous en préserve? À la fin, je cite les écrits du Messie premier d'Islam, l'arbitre juste de notre époque. Ses explications et ses commentaires surpassent tout ce qui a été dit à ce propos. Lors d'une rencontre, un membre de l'assistance lui a demandé son opinion sur le sort jeté par les mécréants sur le saint prophète Mohammed Pessah sur lui. le Messie premier l'Islam a répondu, la magie est une œuvre satanique, le statut d'un prophète est tel qu'il ne peut tomber sous le fait d'un sortilège. Au contraire, la magie fuit devant les prophètes, comme mentionne Dieu dans le Saint-Coran, « La yuflihu sahiru haythu atta ». La magie s'était opposée à Moïse, mais est-ce qu'il n'a pas triomphé en fin de compte? Il est faux d'annoncer que la magie triompha devant le Saint-Prophète Mohammed, paix soit sur lui, nous ne pouvons pas accepter cela. Il est contraire à notre pratique d'accepter aveuglément tout ce que dit Bukhari et Muslim. Même la raison ne peut accepter que la magie puisse affecter un si grand prophète que le Saint-Prophète Mohammed, paix soit sur lui. De telles paroles qui stipulent que sous l'effet de la magie, le Saint-Prophète perdait sa mémoire, ne peuvent en aucun cas être exactes. Ces récits doivent être rejetés. Il semblerait qu'une personne mal intentionnée aurait inventé et ajouté de telles paroles, bien que j'ai un très grand respect pour les hadiths. Mais comment pouvons-nous accepter les hadiths qui vont à l'encontre du Saint-Coran et de la grandeur du Saint-Prophète? À cette époque, les hadiths étaient en train d'être collectés. Et bien que les collecteurs de ces hadiths faisaient preuve d'une grande rigueur et d'une grande vigilance, ils n'ont pas pu faire attention à tout. C'était l'époque de la collecte et maintenant nous sommes à l'époque où il faut étudier attentivement ces hadiths. Lisez ces hadiths attentivement. Si un hadith va à l'encontre du Saint-Coran ou à la grandeur du Saint-Prophète Mohammed, paix soit sur lui, il mérite d'être rejeté ou bien il faut l'interpréter autrement, comme faisait Mirza Bashir Ahmad Sahib ou le deuxième calife. Ensuite, le Messie premier l'Islam ajoute, « Recueillir les récits de la vie d'un prophète est un grand acte de piété. » Recueillir leurs paroles est un grand acte de piété. Toutefois, les personnes qui recueillent ne peuvent faire preuve d'une vigilance indéfectible. Aujourd'hui, toute personne doit faire preuve d'une grande vigilance. Il faut accepter les hadiths qui le méritent et rejeter les autres. Des paroles qui stipulent que le Saint-Prophète a été affecté par la magie, qu'Allah nous en préserve, nuisent grandement à la foi. Allah, l'exalté, déclare dans le Saint-Coran, « Idh yaqulu adh-dhalimuna in tattabi'una illa rajulan mashura ». C'est-à-dire, lorsque les injustes disent que vous suivez une personne qui est sous l'emprise de la magie, ceux qui profèrent de telles paroles sont injustes et ces personnes ne sont pas musulmans. Il s'agit de l'œuvre de mécréants et d'injustes. Ils disent qu'Allah nous en protège, que le Saint-Prophète était sous l'emprise de la magie. Ils ne réfléchissent pas. Si le Saint-Prophète était dans cet état, que dire de sa Ummah? Elle est complètement détruite. Je ne sais pas ce qui se passe dans la tête de ceux qui profèrent de telles paroles à l'égard de ce prophète innocent. Ce prophète que tous les prophètes ont toujours considéré comme à l'abri de l'influence de Satan. Alhamdulillah, par la grâce d'Allah, en ayant accepté l'imam de l'époque, nous comprenons et nous reconnaissons le statut du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa barik wa sallam innaka hamidun majid.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.